Ce matin, effectivement, nous sommes le dernier jour de la fête des pains sans levain. Et ce soir, au coucher du soleil, débutera le 22e jour du mois d'Abib ou de Nissan, comme vous voulez l'appeler. Et nous pourrons alors consommer du pain levé et des produits contenant levure, levain, poudre à lever. Je vois des sourires dans la salle. Non. Donc, tout ce dont nous nous sommes abstenus pendant ces 7 jours, à partir de ce soir au coucher du soleil, nous pourrons donc les consommer. Cependant, avant la fête, nous avons enlevé consciencieusement tout le vin dans chaque coin et recoin de nos maisons, de nos bureaux, de nos voitures. Et on a même jeté de la levure ou des biscuits ou des choses qui n'étaient pas encore consommées et qui contenaient du levain. Pendant 7 jours, nous avons respecté cet ordre aussi de l'Éternel. Nous avons consommé du pain non levé, tout en méditant sur la signification de cet acte d'obéissance à Dieu. Je vous cite rapidement Exode 12 au verset 15. « Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera retranché d'Israël. » Et puis là, voilà, ce soir au coucher du soleil, à partir du coucher du soleil, soudainement, nous pouvons revenir au pain levé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Était-ce juste un exercice de 7 jours sans manger du pain levé? Après, vous savez, si on se met à raisonner humainement, si nous voulions éviter complètement le levain, devrions-nous ne plus du tout manger de pain levé? Serait-ce plus vertueux de nous rappeler à vie de sortir du péché en évitant de manger du pain levé toute notre vie? Et après la fête, donc ce soir au coucher du soleil, lorsque nous recommençons à consommer du levain, pouvons-nous revenir au symbole du levain, autrement dit au péché? Est-ce la leçon à retenir? Bien sûr que non, nous connaissons la réponse. Nous ne retournons pas au péché, mais alors toujours pareil, raisonnement humain, pourquoi revenons-nous à manger du pain levé après la fête des pains sans levain? C'est pas quelque chose auquel on pense, ça devient automatique. On reprend nos habitudes, on a fait notre part et on recommence à vivre notre train-train quotidien avec nos gâteaux, nos biscuits, etc. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais explorer en ce 7e jour de la fête cet aspect de retourner au levain. Le titre du message, c'est « En avant vers le royaume ».« En avant vers le royaume » et c'est le titre qui a été donné par M. Rob McNair en 2006 à son sermon qui est en très grande partie la source de mon message aujourd'hui. En route vers le royaume, ça veut dire qu'à mesure que nous sortons du péché, ce que représentent les jours des pains sans levain, imaginez-nous que nous ne pouvons plus revenir en arrière. Ça, c'est intéressant. Allez dans 2 Pierre 2 au verset 20. 2 Pierre 2, verset 20. Où l'apôtre Pierre nous dit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par quoi, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. » Au verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné. » Au verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est assez clair. On n'a pas besoin de faire d'études de théologie pour comprendre cela. Et les Écritures aussi sont très claires sur ce qu'est le péché et sur la façon dont Dieu voit le péché. Ce n'est pas l'objet du message, mais nous savons que ce péché est misérable, corrompu. Il va nous rendre misérables, il va nous corrompre. Il est détestable. Il est surtout détestable aux yeux de Dieu. Même si Satan l'emballe comme quelque chose de bon à désirer. Et c'est ça notre problème avec notre nature charnelle. Alors bien sûr, nous avons compris que nous ne devons pas revenir en arrière. Dernièrement, M. Weston, je ne sais plus si on l'a eu ici, mais je pense qu'il est sur le site, il est accessible, ça fait pas longtemps. Souvenez-vous de la femme de Lot. Nous connaissons tous l'histoire de Lot, de son épouse, de ses filles qui vivaient à Sodome. Et ce qui est intéressant, on va le voir dans Genèse 19, à partir du verset 1, on va pas tout lire, mais je pense que nous connaissons tous l'histoire, où il y a les anges qui arrivèrent sur le soir à Sodome. Lot va les inviter, même si cela voulait quand même dormir dans la rue. Ça se faisait, je pense, à l'époque. Et Lot les pressa tellement, nous dit-on au verset 3, qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Intéressant. C'est quelques siècles avant que Dieu ne donne l'ordre de ne pas manger de levain et d'instituer donc cette fête des pains sans levain. Nous voyons que à cette période, en tout cas, Lot fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Après, donc, il y a ce débat avec Lot et au verset 12, les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici, gens, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Verset 17, après les avoir fait sortir, l'un des anges dit à Lot, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Donc Lot qui dit on n'aura pas le temps, relisez tout le chapitre et au verset 23, on nous dit que le soleil se levait sur la terre, toujours dans Genèse 19, verset 23, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Donc elle avait quand même quitté la ville, mais elle n'avait pas compris la nécessité de rompre définitivement, complètement, avec cette société, et elle en a payé le prix. Donc, revoyez, recherchez et revoyez ce sermon, souvenez-vous de la femme de Lot. Et là, la question est pour nous maintenant. Qu'avons-nous appris cette année en laissant notre passé derrière nous? Nos vieilles habitudes, nos inclinations naturelles, nos mauvaises habitudes, nos manières, entre guillemets, normales de réagir, d'interagir, nos mots, notre langage, nos pensées, nos gestes, notre comportement. Normalement, tout ça, on doit avoir réfléchi à cela avant la Pâque et aussi pendant donc cette fête des pains sans levain. Et nous savons tous que la voix de Dieu n'est pas compatible avec le monde de Satan. Et par conséquent, il nous est commandé de sortir de ce monde, même si nous devons vivre dans ce monde. Christ, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça a été lu à la Pâque. Et cet appel à sortir du monde est d'autant plus urgent que nous approchons des temps de la fin. Apocalypse, vous savez, c'est ce livre qui concerne beaucoup plus les temps de la fin que beaucoup d'autres, même s'il y a des prophéties qu'on retrouve dans Genèse, dans Deutéronome qui concernent les temps de la fin. Mais vraiment, le livre de l'Apocalypse, c'est de concentrer de tout ce qui nous attend, nous, sur cette terre, en quelque sorte. Et il y a une forte exhortation aussi dans l'Apocalypse 18 pour le peuple de Dieu à sortir du monde, à ne pas regarder en arrière. Verset 1, Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. » Et vous pouvez continuer le reste de la description de ce monde dans lequel nous vivons. Et au verset 4, il nous est dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Exactement ce qui s'est passé avec Lot et sa famille. « Ne subissez pas les fléaux, sortez de la ville, sortez donc de Babylone, qui ne sera pas une ville seulement, ce sera un système qui va envahir la terre. Fuyez pour vos vies. » C'est ce que l'ange a dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. » Et si vous voulez vraiment continuer le parallèle, vous pouvez revoir en continuant Apocalypse 18, au verset 5, il est dit, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et souvenez-vous, dans Genèse 18, juste avant Genèse 19, quand les trois anges, dont l'Éternel, à savoir Jésus-Christ, visitent Abraham, avant qu'Abraham ne commence à négocier s'il y a 50 justes, s'il y a 10 justes, etc., l'Éternel lui dit, les péchés sont montés à moi, et je suis même descendu voir si c'était le niveau atteint. Quel niveau était atteint avant de détruire Sodome et Gomorre? C'est pas l'objet, mais c'est intéressant de savoir que le Christ va aussi citer Sodome et Gomorre en disant qu'elles seront jugées moins sévèrement que d'autres villes qui ont eu son témoignage. Autrement dit, il y a de l'espoir pour ces gens de Sodome et de Gomorre qui ne connaissaient pas Dieu. Et ça, ça nous fait le baume au cœur. Et donc, si vous continuez toujours, donc là on était au verset 5, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel. Et au verset 8, il dit, « À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. » Exactement le même sort que Sodome. Et ça, pour nous, c'est très clair. On le comprend, on a les exemples de la Bible. Ça a été écrit pour notre instruction et on a aussi ces prophéties qui concernent ces temps de la fin et nous avons cette compréhension d'autant plus que nous observons les fêtes de l'Éternel. Nous savons ce que signifie chaque fête. Et ce faisant, nous avons donc vécu sans levain pendant les 7 derniers jours jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au coucher du soleil. Mais revenons donc à la question initiale. Pourquoi pendant seulement 7 jours? Pourquoi pas toute l'année si le levain représente le péché? Puisque nous devons sortir du péché, ne serait-il pas logique de ne plus jamais manger du pain levé? C'est vrai, il faut reconnaître que ce pain levé est bien agréable. Ça, c'est... Vous savez, quand on a une petite sauce là, quand on a... un petit jus de haricot rouge avec la sauce du coq au vin, là, qu'on a bien envie de saucer, ou bien si on veut faire une belle tartine bien chaude, là, et que le beurre va rentrer dans toutes les alvéoles avec le miel et tout ça pour un petit déj. C'est bien bon. Avec les pains sans levain, ça fait pas la même chose. Il faut savoir que Dieu nous a donné le pain, et si maintenant quand les Israélites quittait l'Égypte, il a bien précisé que le pain n'était pas encore levé, c'était quelque chose de courant, le pain levé. Si vous allez au psaume 104, au verset 14, ça fait partie des bénédictions de Dieu, il dit, en parlant de Dieu, il fait germer l'herbe pour le bétail, et nous on mange le bétail après, ça c'est bien, on va laisser l'herbe pour le bétail. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. afin que la terre produise de la nourriture. Et ici, au verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc, vous voyez, ça fait partie des bénédictions de Dieu d'avoir du pain levé de façon courante parce que c'est agréable, c'est plus mou, c'est plus, peut-être pas plus digeste, mais c'est quand même plus agréable. Ça n'écorche pas les gencives sensibles, notamment. Donc, Dieu sait ce qu'il fait en nous permettant de ne manger que pendant 7 jours des pains sans levain. Maintenant, si vous voulez, à titre personnel, manger du pain sans levain toute l'année, ça vous regarde. N'en faites pas une doctrine et n'essayez pas de convaincre les autres de faire comme vous. Cependant, le chiffre 7, on le sait, c'est le nombre de la complétude. Donc, une semaine de consommation de pain sans levain peut représenter toute une vie hors du péché, d'autant plus qu'on la renouvelle d'année en année. Et donc, toute une vie du péché que nous devons laisser derrière nous, bien sûr, tout en changeant et en grandissant. Donc, c'est donc symbolique, ces 7 jours de pain sans levain. Comme je viens de le dire, ça peut représenter toute une vie. C'est juste le symbole. Nous connaissons les fêtes. C'est une réponse, en quelque sorte, au sacrifice du Christ. Il est mort pour nous, pour nos péchés, et on n'allait pas continuer carrément à vivre comme si de rien n'était, même si on reconnaît ce sacrifice. Donc là, on a une part à faire. Si vous prenez déjà la brochure, vous verrez que c'est notre part dans le plan de Dieu. Mais il y a aussi une leçon intéressante, je dirais même très intéressante, à tirer du pain levé lorsque nous recommençons à en consommer. Quelle leçon, direz-vous? Il faut savoir que Dieu n'utilise pas le levain comme symbole uniquement du mal et du péché. C'est vrai que dans notre esprit, nous avons le levain de malice et de méchanceté dont parle l'apôtre Paul. Le Christ parle du levain des pharisiens. Mais en regardant bien ce que nous allons voir, il peut être aussi utile pour nous de prendre du pain levé après la fête des pains sans levain. Allez dans Matthieu 13. Il y a une toute petite parabole qui ne tient qu'en un verset, en quelque sorte, au verset 33. Matthieu 13, au verset 33. Il, Jésus, donc, leur dit cette autre parabole. Vous savez, chapitre 13, c'est un éventail de paraboles sur le royaume. Et il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Et là, question tout à fait légitime, mais qu'est-ce que le levain, qui symbolise dans notre esprit très souvent le péché, a à voir avec le royaume de Dieu? Ça, c'est une question intéressante. Ce royaume, souvenez-vous, votre dernière fête des tabernacles, et je pense que la prochaine, vous aurez droit au Ésaïe 11:9, que je pense que tout le monde connaît par cœur. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, ce royaume, il est spécial. On sait que le mal sera banni, bien sûr, il y aura un travail à faire. On aura une part à faire, nous, si nous persévérons et que nous réunions avec Christ. On aura une part à faire d'éducation et tout, mais ça, c'est chaque fête a son symbole, a sa signification. Et là, nous venons de passer 7 jours à méditer sur tout ce que représente le levain comme symbole du péché, à quel point c'est mauvais, le péché, et comment nous devons sortir du péché, comment nous devons le surmonter. C'était en quelque sorte l'exercice de la semaine qui s'achève aujourd'hui. C'est vrai que le levain symbolise le péché, mais il symbolise aussi le royaume de Dieu tel que nous venons de voir le Christ le citer. Et c'est vrai que la parabole entière est contenue dans ce seul verset. Le levain, qu'est-ce qu'on en fait? Ou maintenant plus la levure chimique qu'on achète dans le commerce. On en met un petit peu dans la pâte qu'on est en train de préparer. On couvre ça et qu'est-ce qui va se passer? Ça va gonfler. On va dire que ça va faire lever la pâte à pain, la pâte à gâteau par expansion. Eh bien, c'est exactement la même chose que pour le royaume. Dieu a commencé avec un tout petit nombre, avec très peu de gens. Et à terme, ça aura pour résultat que la terre entière sera couverte de la connaissance de Dieu. L'action de ce levain est dans la croissance du royaume de Dieu, du levain dont le Christ vient de parler. Encore Ésaïe 9 qu'on utilise. Là, on était dans 11-9 tout à l'heure, mais Ésaïe 9 aussi, on le cite très souvent à la fête, où on nous parle, c'est une prophétie qui annonce la naissance du Christ. Car un enfant nous est né, au verset 5, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, et le verset 6 où je voulais revenir, donné à l'empire de l'accroissement. Exactement ce que vous allez faire dans votre prochain gâteau, que vous allez nous porter ici pour qu'on puisse le goûter et voir si vous avez bien utilisé la levure. D'accord. Je suis président du jury. D'accord. Donc, donné à l'empire de l'accroissement. Et ça, c'est la levure, le levain que vous allez injecter dans votre pâte pour la voir gonfler et remplir le moule, etc. Et c'est précisé, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc ça, c'est à réfléchir et à méditer, alors que nous laisserons dans quelques heures cette fête des pains sans levain, et que nous allons commencer à savourer ces savoureux morceaux de pain levé, tout en restant dans un état de non-levain spirituel. Le côté spirituel de la fête, il faut qu'on le garde. Côté physique, c'est important d'obéir à Dieu, mais il a 17, il n'a pas dit 8, 10, 11, 12, il a 17. Donc, on peut être parfois contraint de manger un peu plus longtemps du pain sans levain en fonction de la conformation en quelque sorte de la semaine. Si la fête s'arrête un vendredi soir, eh ben vous n'irez pas acheter du pain le samedi matin. Donc, c'est pas important, mais ne pas vouloir faire ne pas créer des doctrines disant, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Dieu parle de 7 jours, du coucher du soleil du 14e au coucher du soleil du 21e. Un autre point maintenant. Nous avons vu tout à l'heure que la sortie de Lot de Sodome pourrait s'être passée dans cette période qui correspond à la période des pains sans levain. Ce n'est pas une doctrine, encore une fois. C'est une constatation où ils disent il fit cuire des pains sans levain, puisque Dieu ne l'avait pas encore institué cette semaine-là. Une autre tradition veut que Moïse, et on peut là peut-être plus facilement le prouver chronologiquement, que Moïse et les enfants d'Israël traversèrent la mer Rouge le dernier jour des pains sans levain. Et ça, on retrouve ce texte dans Exode 14. Et là, je vais juste prendre à partir du verset 9. On sait qu'Exode 12, c'est la Pâque. Ensuite, ils quittent l'Égypte de nuit, après le coucher du 14e, donc dans la nuit du 15. De cette soirée mémorable qu'on a eue en début de fête des pains sans levain. Et donc, ils vont cheminer et ils vont finir par arriver, donc, dans le verset 9 de Exode 14. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent près de la mer à Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, ça fait une semaine à peine qu'ils sont sortis d'Égypte. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir du pays d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors, ils étaient peut-être pas au fait de toutes les conversations de Moïse avec Pharaon. L'Éternel m'envoie pour que mon peuple me serve. Alors, peut-être qu'il en a parlé, certainement, mais là, c'est intéressant de voir qu'ils veulent quand même servir les Égyptiens au lieu de sortir donc de cet état d'esclavage dans lequel ils se trouvaient. Verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez sur place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour-là, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Ça, c'est quand même, ça sort naturellement. Il doit se poser la question, « Mais comment je vais faire ?» Ça, c'est, allez, on va encourager le peuple. Mais là, comment je vais faire? Parce que l'Éternel ne lui a encore rien dit. Mais il sait que l'Éternel combattra pour vous. Il avait eu cette promesse que vous quitterez l'Égypte. Et qui plus est que vous n'y reviendrez pas. Donc, au verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et là, au verset 15, Dieu vient avec sa solution. Mais il pose quand même une question. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Où est le problème? Ah oui, mais il y a les Égyptiens derrière, il y a les montagnes de part et d'autre, et puis il y a la mer devant nous. Là, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Et là, la réponse de Dieu, c'est qu'ils marchent. Et il donne l'ordre à Moïse, bien sûr, de brandir son bâton, et donc ils ont pu passer à pied sec. Vous connaissez cette histoire. Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir que à peine une semaine sortie d'Égypte, ils veulent y revenir. Mais là, j'ai trouvé dans un ancien Good News et qui c'est un de nos ministres à l'époque qui a survolé par accident parce qu'il y avait donc un problème sur l'aéroport où ils devaient atterrir en Égypte et donc on les a déroutés vers un autre aéroport et il disait dans son récit qu'il a survolé ce territoire de Goshen. Et qu'il a visité le temps de la réparation technique où ils ont, je sais pas trop comment, mais il a pu avoir le temps de visiter quand même des choses. Et alors, c'est vrai que dans tout ce qu'on voit sur les Toutankhamon, les tombes égyptiennes, etc., donc il y a plein de hiéroglyphes, un peu comme mon écriture, mais aussi il y a des dessins. C'est pas des BD, mais ça parle quand même. Et l'histoire même nous montre que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Égyptiens, c'était des conquérants. Et quand ils faisaient la guerre, il est question de Ramsès, qui se vantait, Ramsès III de la 20e dynastie, qui décrit le sort de ses ennemis en disant qu'ils étaient marqués au fer rouge et transformés en esclaves estampillés à mon nom. Leurs femmes et leurs enfants étaient traités de la même manière. Vous savez, donc, ça, c'était longtemps avant nous, que nos ancêtres africains. Donc ça a toujours été ça. Après, il dit, de nombreuses peintures de tombes montrent des scènes d'esclaves battus. Après, même dans l'Antiquité, les Grecs, faut pas oublier qui sont Cléopâtre, elle était donc en Grèce, le fameux troisième royaume, quand ils ont reconquis tout ça des Mèdes et des Perses, ils ont donc envahi l'Égypte aussi, et ils ont rapporté que certaines des pires conditions de vie des esclaves en Égypte, c'était dans les mines d'or, dans les mines de cuivre de Nubie, où les gens mouraient carrément en plein soleil. Ils étaient fouettés à mort et épuisés, sans eau, sans rien du tout. Ils crevaient, comme on dit, c'est vraiment le cas de le dire. Et pour les femmes, c'était pas mieux, ça n'a toujours pas changé. Les femmes esclaves n'étaient pas exemptes de traitements cruels. Elles étaient souvent prostituées contre leur gré ou devenaient les concubines de leur maître égyptien. copier-coller. Rien n'a changé et ça se passe encore de nos jours. Donc, les Israélites ont connu ça. Peut-être, on nous dit que les meilleures conditions, c'était d'être servant, enfin serviteur ou servante chez un maître, même s'il y avait ce droit de cuissage, et travailler éventuellement au champ. Mais si vous allez dans Exode 1 au verset 13, où on vous parle du comment et du pourquoi, alors il y a l'histoire de Joseph, les Israélites descendus là-bas, d'un pharaon qui n'avait pas connu Joseph et puis qui était inquiet de voir cette populace israélite. Et donc il dit à ses sages, bon ben on va les réduire en esclavage. Et le livre d'Exode nous rapporte dans Exode 1 au verset 13, alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Donc, c'était pas des vacances au Club Med, on s'entend bien. Mais malgré tout, on va dire que c'est l'instinct de conservation, et bien on préfère être vivant comme ça que mourir là, parce que de toute façon, ils vont finir par nous rattraper et on est coincé. Donc, pour nous, c'est facile de... Parce qu'on connaît l'histoire. On connaît l'histoire. C'est facile pour nous de critiquer les Israélites. À quel point ça peut sembler ridicule de leur part de vouloir revenir en arrière. Mais nous, c'est là, malgré tous ces exemples pour nous servir de témoignage, à quelle vitesse, si nous ne faisons pas attention, reviendrons-nous à un comportement ou un mode de vie qui n'a aucun sens? Retomber dans le monde, ce que Pierre disait tout à l'heure, le chien qui retourne à son vomi ou la truie qui revient dans le bourbier après avoir été lavé. Parce que ça, c'est très subtil, mais si nous disons des choses que nous ne devrions même pas penser, si nous faisons des choses à ne pas faire, est-ce que c'est pas un peu la même chose si on rejette le mode de vie de Dieu pour revenir un tout petit peu des fois dans ce monde en fricotant avec lui en quelque sorte? Nous devons effectivement, et c'est ce que nous rappelle cette fête que nous sommes en train d'achever, nous devons lutter contre le péché et ne jamais cesser de lutter contre lui. Mais il y a plus à faire. Et c'est ça le côté intéressant de cet Exode 14. Alors que Moïse, qui était un petit peu dépassé, ne savait pas trop comment avancer, là, l'Éternel répond simplement, avancez. Pourquoi vous pleurnichez là? Avancez. Ne restez pas immobile. C'est Dieu qui avait la réponse. Et on connaît l'histoire. Moïse brandit son bâton, la mer s'ouvre et au verset 16 de Exode 14, il nous est dit qu'ils entreront au milieu de la mer à sec. C'est quand même impressionnant. Ça, c'est très, très impressionnant de voir une mer qui s'ouvre et à peu près 2 millions de personnes passer au milieu de deux murs d'eau. Et ça, ça devrait marquer. Si vous connaissez l'histoire, c'est que à peine ils avaient franchi la mer, que au premier petit problème, eh oh, l'Égypte c'était bien bon, on avait des concombres, on avait des pastèques, on avait du pain à satiété, on avait des coups avec, mais c'est pas grave. Mais là, au moins, on était esclaves. C'est vrai que nous ne restons pas tout à fait immobiles. Soit nous avançons, soit nous reculons. Mais nous ne devons pas retomber dans le péché. Et rester statique, ce n'est pas la solution. Parce que si nous ne retournons pas au péché, c'est lui qui va nous rattraper. Nous devons absolument avancer, nous devons absolument progresser. Et c'est ce que Dieu nous enseigne à travers tous les jours saints. Le plan de Dieu, c'est donc effectivement une fête progressive. Ce sont des étapes progressives. Nous avons eu la Pâque, les pains sans levain. Après cela, donc, chaque fête ayant sa signification, on sait qu'on a besoin d'aide. On est comme les Israélites si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Et là, donc, la prochaine fête, vous savez, c'est la Pentecôte, mais c'est une autre fête à venir. Donc, nous devons progresser. Nous devons, à titre individuel, mais aussi en termes de congrégation, collectivement, nous devons tous progresser. Et même de son vivant, Jésus a commencé à se préparer à l'expansion. Il a enseigné des disciples et il en a choisi 12. Et ces 12-là étaient chargés et d'autres aussi, il a envoyé 70, etc. Donc il a commencé avec un petit nombre de personnes qu'il a envoyées pour enseigner, pour propager cette bonne nouvelle en quelque sorte. Et depuis 2000 ans, ça fonctionne puisque nous sommes là aujourd'hui. Comme l'a dit M. Taco tout à l'heure, nous avons une part à faire pour permettre à cette œuvre d'avancer encore davantage. Là, M. Ellis, comme ça a été dit dans les nouvelles, il est à Madagascar. Prenez la carte, c'est très très loin de chez nous là. Donc, c'est des dizaines d'heures de vol pour y aller. Et c'est une île qui est grande comme la France à peu près, mais sans les infrastructures de la France. Donc, pour l'instant, il est dans la capitale, mais comment ça va se passer quand ça va essaimer à partir de la capitale, dans les campagnes, etc.? Il faut qu'on se prépare à cela aussi, cette notion d'expansion. Ça commence vraiment dans l'Esprit du Christ quand il prend ce symbole du levain qu'on va injecter dans la pâte pour la faire croître. Oui, et après le millénium, donc nous arrivons bien sûr à son retour à la fête des trompettes, la fête des tabernacles après avoir mis Satan à l'écart, qui représente le millénium, etc. Et le dernier grand jour pour ces gens de Sodome et d'autres parties du monde qui n'ont jamais entendu parler du vrai Dieu, en tout cas. Après le millénium, nous allons nous retrouver avec un royaume qui va s'étendre pour inclure tous les êtres humains, ce dernier grand jour. Ces gens du passé, ou peut-être même juste qui sont nés ou qui auront vécu au moment de la Troisième Guerre mondiale sans avoir connu Dieu, mais de toute façon, ils seront du passé. Il y aura déjà 1000 ans de millénium, et donc ces gens-là seront ramenés à travers la deuxième résurrection. Et ça encore, ça va être pour les éduquer, pour leur montrer la voie de vie, pour étendre le royaume, parce que c'est dans le plan de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, donnée à l'empire de l'accroissement. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que, à terme, une fois que tout sera terminé, que cette deuxième résurrection aura eu lieu, que ces gens auront eu leur opportunité de salut, quand cette terre est purifiée, Dieu vient installer ici le siège social de son royaume et ce gouvernement s'étend à tout l'univers. Romains 8 nous dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est quand même un plan pas banal. On peut même y avoir du mal à y croire, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça commence petit. Ça commence vraiment très petit. Nous avons le privilège de faire partie de ce plan alors que nous avançons à partir de cette fête des pains sans levain. Là, on sort de cette fête ce soir et on continue d'avancer vers le royaume. Sans oublier, bien sûr, les leçons apprises, rester hors du péché et se nourrir de Christ. Et là, avec ce qu'on vient de voir, on pourrait se dire, mais peut-être même que manger ce pain levé, ça veut dire qu'on pourrait avoir même cette démarche. Vous savez, quand on prend quotidiennement pendant la semaine des pains sans levain, on prend un petit morceau de pain, on pense à cette nature charnelle, ce péché, cet adversaire qu'on a à vaincre et tout ça, on pense à cela. Et pourquoi ne pas faire le sens inverse? Ça veut dire que chaque fois qu'on va saucer la petite sauce de haricots rouges, des riz djon-djon, comme on a mangé en Guadeloupe la semaine dernière, ou les dombrés de ceci, les dombrés de cela, quand on va manger toutes ces choses que nous aimons avec ce petit morceau de pain levé, pourquoi ne pas penser au royaume? Ce serait intéressant. Ça nous ferait penser un tout petit peu plus souvent au royaume. Et la question tout à fait légitime, à quel point ce royaume est-il réel pour nous? Ça, c'est... on l'a déjà dit, je me répète, de passer 7 jours à manger du pain sans levain, puisqu'on a une approche du levain, une approche négative, on dirait, du levain, qui symbolise le péché. Et là, maintenant, on se retrouve à manger quelque chose qui peut symboliser le royaume, qui symbolise en tout cas cette expansion, ce fait d'aller de l'avant. Autre chose intéressante, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la prochaine fête, de la Pentecôte. Et quand vous allez dans Lévitique 23, allez-y, Lévitique 23, à partir du verset 16, où Dieu donne les instructions pour la Pentecôte, il dit, vous compterez, au verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et là, il décrit l'offrande, au verset 17, vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et l'autre, et ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Et il continue pour terminer sa phrase, ce sont les prémices de l'Éternel. Nous savons que avant tout cela, il y a eu pour le décompte de la Pentecôte une gerbe agitée qui symbolisait le Christ. Et là maintenant, au moment de la Pentecôte, on se retrouve, et ça va être redit, je pense, avant ou pendant la Pentecôte, mais là on se retrouve avec une nouvelle offrande de 2 pains au levain, en quelque sorte, des pains cuits avec du levain. Vous l'avez déjà certainement entendu, mais nous expliquons dans l'Église que ces 2 pains symbolisent tant l'Église de l'Ancien Testament, donc la congrégation d'Israël, la congrégation du désert, comme l'appelle Étienne dans Acte 7, et l'Église du Nouveau Testament. Et le fait que ce soit des pains levés, cela symbolise que ces congrégations étaient et sont encore, puisque notre congrégation Église Nouveau Testament, bien que répartie de par le globe, on va parler donc d'une Église qui est composée de gens physiques, charnels, et encore enclins au péché. Ça, c'est tout à fait naturel. Si quelqu'un veut contester cela, ça sera très difficile. Nous sommes tous enclins au péché, parce que nous sommes charnels. Donc, pour refaire le point sur cela, le Christ a utilisé le levain comme une description de l'Église de Dieu qui avance vers le royaume de Dieu, montrant que le levain peut signifier la croissance du royaume, avec cette petite parabole de pas grand-chose, d'un verset. Et même si ce royaume pour nous, ce n'est qu'un royaume embryonnaire, d'accord. Le fait est que nous devons nous appliquer à pratiquer certaines choses qui peuvent nous aider à avancer vers ce royaume. Et c'est ce que nous allons voir en 5 points là maintenant. Oui, il faut que ce royaume soit, c'est vrai, l'image du petit morceau de pain que vous prendrez tous les jours qui sera levé. Pensez à la pâte qui était toute plate et puis qui a gonflé, qui a donné ce pain relativement savoureux ou plus souple à la bouche et tout, plus délicieux, on va dire. Mais nous devons nous appliquer vraiment à faire du royaume une réalité pour nous au quotidien. Et le premier point pour le faire, point numéro un, il nous faut parler du royaume. Alors, lors de nos assemblées, alors bien sûr, si nous sommes en famille, si nous sommes tous dans l'église, dans la famille, c'est très facile. On peut parler de Dieu tous les jours, on peut écouter, étudier en même temps. Maintenant, sur les smartphones ou sur les ordinateurs, vous avez toute espèce de plan de lecture. On peut lire, comme M. Taco nous a rappelé, à travers les brochures, tout ça. Et on peut en parler en famille. Mais il y en a qui ne sont pas en famille. Il y en a qui sont seuls chez eux, ou seuls sur leur île, seuls au fin fond de la Guyane, etc. Et ces gens, effectivement, qui sont seuls, ont ce besoin. Et quand Dieu dit « n'abandonnez pas vos assemblées », pour nous qui avons une assemblée, ça, il y en a qui même font, qui passent au-dessus, ouais. J'ai pas envie de conduire, j'ai pas envie de descendre, j'ai pas envie de voir les gens, etc. Et pour d'autres, je sais que notre prospect en Guyane, à Saint-Laurent, on échange assez régulièrement. Et vraiment, c'est difficile pour lui, c'est difficile. Nous avions monsieur Raphaël qui est resté 15 ans facilement tout seul à Sainte-Lucie, et là maintenant, allez hop, on est cinq. Il y a Honorine qui est toute seule sur son île aux Marquises. Mais Dieu sait faire des miracles. Donc, parler du royaume, c'est quand même quelque chose de très important, surtout quand nous avons une congrégation, surtout quand on peut se rencontrer le samedi, parler avec les autres. Quand je dis parler du royaume, c'est pas pour enseigner, mais pour s'exhorter. Pour nous encourager, nous exhorter mutuellement, surtout le jour du sabbat. Dans Ésaïe 58, vous connaissez ce passage. Dieu dit au verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. » Et à la fin du verset 13, il nous dit, « En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. » Donc, effectivement, parler de mécanique, de voiture, de ceci, de cela, c'est pas spécialement la chose appropriée. Il y a des conversations. On peut, par exemple, tiens, mardi, oui, j'ai une panne sur l'autoroute, mais j'ai pu réparer à temps pour arriver pour l'étude biblique. Ça, c'est pas la même chose que, oui, et puis j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pris le creek, et puis il était en panne, et puis ceci, et puis cela. Donc, on tombe très souvent dans des futilités. Donc, apprécions, et notamment ce jour symbolise aussi le millénium, le jour du sabbat. Apprécions le fait d'avoir effectivement peut-être une semaine harassante, mais d'être content de se rencontrer entre frères et sœurs. Et il faut que nous puissions vraiment apprécier le fait d'être ensemble pendant le sabbat. Ça, c'est très important. Et là, on pourra aussi parler du royaume. De façon, on s'entend bien. C'est pas aller le royaume, le royaume, le royaume, mais avoir les conversations qui tournent autour du plan de Dieu, parce que quand je dis le terme royaume, il faut voir le plan de Dieu, parce que c'est l'aboutissement du plan de Dieu. Donc, ça peut être une phase du plan de Dieu, mais pas spécialement, allez, que je te boule le crâne avec mon royaume. Non. Parler de la satisfaction d'être là, du message éventuellement, ou de l'article de Monsieur X qu'on a lu dans le journal. On peut aussi parler de politique en s'inquiétant de ce que fait M. Trump, quel effet ça pourra avoir, mais sans tomber non plus dans aller refaire le monde. On comprend bien, on en a parlé déjà de ce qu'on peut, avec intelligence, voir et dire pendant le sabbat. Donc, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu nous fait comprendre que garder le sabbat implique même de réfléchir aux mots que nous prononçons ce jour-là. Parce que nos paroles peuvent avoir de l'effet. Notre mode de vie. On peut être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Bien sûr, on sera toujours, il y a des sensibilités différentes, on peut toujours être une pierre d'achoppement. Mais quand la mare est grande, on va pas plonger dedans. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut profiter donc de cette grande opportunité qu'est le sabbat pour échanger sur le plan de Dieu. Donc ça, ça fait que le royaume devient une réalité pour nous en parlant déjà. Je dis bien en parlant, pas pour enseigner, pas pour etc., mais vraiment échanger des expériences intéressantes, constructives, édifiantes. Ça, c'est quand même quelque chose que nous pouvons avoir le privilège de faire pendant le sabbat. Jésus-Christ parlait constamment du royaume. Et ça nous amène au point numéro 2. Si le Christ en parlait, ça a été donc consigné pour nous par écrit. Nous devons donc, point numéro 2, lire et étudier donc les évangiles notamment. Mais il n'y a pas que les évangiles, parce que nous savons que ce royaume aussi est dans les prophéties. Daniel en parle. Daniel parle de la vie éternelle, Ésaïe parle du monde de demain, etc. Donc, on n'a que les prophètes, mais aussi l'exemple du Christ qui était directement reporté dans les évangiles. Par exemple, on a parlé de Matthieu 13. Regardez tout ce chapitre où vous aurez la parabole du semeur, de l'ivraie, du grain de sénévé, du levain dont on vient de parler, du trésor caché, de la perle de grand prix, du filet que le pêcheur va jeter, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de leçons à tirer de toutes ces paraboles. Monsieur John O'Green a écrit un article que vous allez retrouver dans le journal de septembre-octobre 2016, les leçons des paraboles du royaume. Il y a toujours des leçons à apprendre. Et même si on l'a lu, en le relisant, il y aura toujours un autre filet qui ne nous avait pas percuté. Et ça, c'est intéressant. C'est ce qui est intéressant avec le support papier, notamment, c'est de pouvoir le sortir à n'importe quel moment et de se replonger dessus. J'avais surligné là. Pourquoi c'est pas surligné là? Vous voyez, de s'enrichir spirituellement. Et c'est vraiment une étude incroyable de prendre toutes les paraboles du Christ. Et là, on est en train de faire l'harmonisation en étude biblique et vous voyez tous les points qu'on peut toucher à travers cette harmonisation des Écritures. C'est quelque chose de phénoménal. Et ce faisant, on voit à quel point c'était réel pour le Christ. Le royaume était une réalité pour lui. Il en parlait tout le temps. Soit en le nommant, il dit le royaume est ceci, le royaume est cela, ou dans le contexte. Même quand il parle de Sodome et de Gomorre, ça veut dire quand il dit les gens de Sodome seront traités moins sévèrement que vous à Capernaum ou je m'en rappelle plus. Ça veut dire que ces gens ont une possibilité. On peut faire les connexions sans arrêt entre tout ce que le Christ dit et le royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il n'en parlait pas 24 sur 24, hein, on est d'accord, mais il en parlait suffisamment pour que ça puisse nous imprégner, nous aussi. C'est vraiment, en étudiant tout cela, on voit ces points forts de sa vie, de sa mission, de son ministère. N'oublions pas que c'est l'homme, n'oubliez pas le sermon récent de ce Dieu qui s'est fait chair. Et ce royaume, on a dit qu'il a remplacé Adam, parce que Adam avait loupé sa mission. Lui, il est venu en tant que second Adam, mais il est venu en tant qu'homme. Donc c'est l'homme par qui naîtrait le royaume de Dieu. Ça aussi, il faut bien comprendre. S'il n'y a pas d'homme dans le royaume, il ne sert à rien ce royaume. Il faut des sujets. Un roi avec juste un territoire et son sujet. N'oublions pas les quatre éléments. Le roi, le territoire, les sujets et bien sûr les lois. Donc il y a vraiment quelque chose d'important pour nous. Dieu se reproduit à travers nous. Nous serons ses enfants, ses fils et ses filles dans son royaume. Exactement comme dans une famille, dans une maison. C'est ça son plan. Et il fallait bien que ça démarre par quelqu'un, par un homme. Et ça a été le Christ. Et partant d'un seul homme, partant de ce Christ, ça va s'étendre jusqu'à l'univers entier. Et c'était le plan de Dieu au départ. Et ça devrait... Pensez-y au prochain chocolat pain au beurre que vous allez manger. Avec le pain au beurre bien mou, là. Donc, nous pouvons apprendre beaucoup de choses simplement en nous imprégnant de ce qui a été enregistré sur la vie du Christ et comment c'était vraiment le centre de sa vie, plus que la nourriture elle-même. Notez simplement au passage, Jean 4, verset 34, mais c'est l'aboutissement d'un échange avec ses disciples, où il leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et ailleurs, nous voyons la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance et aussi à la connaissance du Christ. Donc, voyez, même là, on parle du royaume, sans faire attention. La volonté de Dieu, c'est ce royaume. Donc, nous devons aller dans cette même direction que le Christ, le royaume de Dieu et cette vie éternelle qu'il nous offre. Je parlais tout à l'heure de critiquer les Israélites. On comprend pas toujours très bien, mais si on les comprend, parce que ça nous arrive de faillir et de nous sentir même plus penauds qu'ils étaient, parce que eux, ils avaient rien écrit pour eux. Nous, nous avons tout écrit pour nous. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous, nous l'avons à disposition. Nous sommes censés l'avoir reçu, mais nous pouvons aussi l'attrister. Donc, nous sommes en quelque sorte un peu plus privilégiés qu'eux. Nous arrivons après. Et un jour, c'est vrai que tous ces problèmes que nous voyons autour de nous, les soucis, les ennuis de cette vie, ils sembleront insignifiants par rapport à ce que nous vivons. Et ça, nous avons Ésaïe notamment qui le décrit parfaitement. Ce merveilleux monde de demain où il n'y aura pas de malades, etc., où nous serons même en charge sous l'autorité du Christ pour faire avancer des choses. On peut pas voir ça maintenant. C'est vrai que quelqu'un qui nous entendrait là, je sais pas ce qu'ils ont bu, mais ils sont bien atteints là. Mais c'est une réalité. Et ça, ça doit être chez nous, en nous. Voyons un prochain point pour nous aider à continuer à avancer vers ce royaume. Alors que nous sortons de cette Égypte, entre guillemets, alors que nous sortons du péché, donc à travers ces 7 jours de pain sans levain, nous ne voulons certainement pas revenir en arrière. Nous ne voulons pas rester immobiles, nous voulons avancer. Et comment est-ce que nous faisons cela? On a dit qu'on parlait du royaume, qu'on étudiait les Écritures, qu'on lisait même, ne serait-ce qu'une lecture attentive peut porter beaucoup de choses. Au lieu d'une étude thématique, mais on peut lire, même écouter aussi, si on a plus d'aisance à écouter, parce que les verres, la lumière, tout ça, ça manque un petit peu, les lunettes ne sont pas assez puissantes. Même maintenant, nos brochures sont lues et sur Internet, vous trouvez, vous pouvez choisir la version en français, en anglais, en espagnol. Vous pouvez l'écouter en français, vous êtes en train de vous performer en anglais, allez hop, on appuie sur le petit bouton, on touche même. Ben voilà, c'est tactile qui plus est. Et on bascule dans l'anglais et on se nourrit comme ça. Donc, on parle du royaume, on étudie à son sujet, mais le point numéro 3, c'est prier pour le royaume, prier à son sujet. Dans la prière modèle, que ton règne vienne. D'accord? Il n'y a pas photo. C'est nécessaire d'en parler. C'est même indispensable. Parce que si le royaume de Dieu est important, la chose la plus importante pour nous, c'est d'en parler avec Dieu. D'autant plus que nous sommes concernés. Donc, on peut lui parler de la beauté de ce que nous avons lu, des difficultés qu'on peut rencontrer pour tenir le bon bout, pour vaincre une faiblesse, etc. Donc, ça fait partie de nos prières, mais aussi le remercier pour ce plan, pour ce royaume majestueux. On a un exemple de prière du Christ. Je ne parle pas de la prière modèle, mais si vous allez dans Luc 6 au verset 12, on nous dit, en ce temps-là, Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il y passa toute la nuit. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et au verset 3, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Pendant toute une nuit, il a parlé du royaume à son père. Voilà, papa, je suis dans cette chair là maintenant et On est en train de constituer l'équipe. Éclaire-moi, guide-moi, aide-moi à choisir les 12 dont tu as besoin pour commencer à faire ce travail. Et il y a ce travail phénoménal qu'on retrouve dans ces deux émissions de M. Rod King, de Feu Rod King, sur les voyages prophétiques et les voyages incroyables des apôtres. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas Internet. Ils sont allés jusqu'en Inde, ils sont montés jusqu'en Angleterre. Ils ont quand même inondé en quelque sorte de la bonne parole avec les moyens dont ils disposaient. Mais ils ont commencé le job et nous on le continue. Donc c'est vrai que nous n'avons peut-être pas la même responsabilité que le Christ à ce niveau-là. Mais nous pouvons prier pour les déplacements des ministres, pour l'Église. Là on vient de parler des frères de l'Église unie qui sont affectés en Haïti. Nous avons eu dernièrement les nôtres qui étaient en Birmanie. Il y a eu un tremblement de terre, mais avant ça, il y avait la junte militaire qui les pourchassait, les gens des villageois dont faisaient partie les nôtres. Donc, il y a tout cela. Et ces gens ont exactement le même potentiel que vous et moi dans cette salle, mais ils sont dans d'autres conditions géopolitiques. Donc, nous devons penser à eux. Nous devons aussi, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons peut-être pas des décisions du niveau que de M. Weston, que de M. Stafford, notre directeur, mais nous avons des décisions que nous prenons pour nos vies, pour notre famille, des décisions personnelles, professionnelles, familiales. Et tout ça, ça trace en quelque sorte le cours de notre vie. Si je prends une mauvaise décision là, je peux passer tout le reste de ma vie à en payer les conséquences. Donc, ça demande de s'approcher de Dieu, de lui parler en lui disant nos faiblesses, nos difficultés à atteindre le but qu'il nous a fixé. Et là, il va nous dire, oh là, la mer rouge va s'ouvrir, avance, je suis là, ça c'est important. Il y a un exemple frappant dans la Bible auquel on pense peut-être pas, celui d'Esther. On connaît l'histoire. Les Juifs étaient menacés carrément d'extermination, de génocide. Et là, Mardoché, le parent d'Esther, lui dit, bon, là maintenant, on est arrivé à un point de non-retour. C'est à toi de jouer maintenant. Et là, la pauvre petite, si le roi ne t'avait pas convoqué et que tu te présentais dans la cour, ben, s'il disait zigouiller, on zigouillait. Là, il réfléchissait pas, les gardes. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à Mardoché, qui lui a dit, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, dans cette position, à cet endroit précis, à ce moment précis, pour prendre cette décision? Voilà pourquoi on t'a remarqué que tu es devenu reine en quelque sorte. » Et c'est pas désarmée, la petite dame. Et elle a dit, bon, que tout le monde jeûne, 3 jours de jeûne. Moi, je jeûnerai au verset 16, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. C'était pas une loi divine, c'était une loi humaine. Et j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Aller de l'avant. La mer est là, mais elle est allée de l'avant et on connaît le reste de l'histoire. Ça, c'est vraiment phénoménal, cette histoire d'Esther. Et ça, c'est le genre d'histoire qui peut nous aider à avoir une vue d'ensemble et à réaliser, pour que nous puissions réaliser à quel point le royaume de Dieu est réel. Esther aurait pu être zigouillée, les 3 amis de Daniel auraient pu périr rôti dans la fournaise. Ils ont dit, ben non, pas de problème. Dieu peut nous délivrer, mais sache que s'il ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Ça ne marche pas pour nous. Donc, on a ce genre d'exemple. Comme disait M. Weston quand il en parlait, et il ne connaissait pas la fin de l'histoire. Et ça, ça fait toute la différence pour nous. Donc, là, il est question de prier pour le royaume. Mais quand nous nous approchons de Dieu, quand nous prions, à quel point sommes-nous proches de lui? Et nous savons que marcher avec lui chaque jour nous prépare pour le royaume. Le quatrième point, parce que nous ne sommes pas les seuls concernés. N'oubliez pas ce que Pierre a dit à tous ces Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour la Pentecôte, parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et nous, parents, nous avons cette responsabilité. Certes, l'Église va donner des moyens à travers des articles, des sermons, etc., mais la tâche incombe en priorité aux parents, qui sont pratiquement H24 en contact de leurs enfants, pour leur éducation, pour leur parler du royaume. Ça aussi, c'est une tâche intéressante. Prenez l'exemple d'Exode 12 au verset 25. Nous voyons que la Pâque est déclarée comme un usage sacré. Et le verset 26 où je voulais en venir, c'est Dieu qui parle, il dit, « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez. » Et là, je vous laisse lire le reste à la maison. Donc, vous voyez qu'il y a toujours cette notion, « Ah tiens, papa, pourquoi on mange ?» Je crois que j'avais fait un message comme ça, oui. « Pourquoi on mange du pain sans levain ?» Donc, là, ça c'est la porte grande ouverte pour prêcher le royaume. Prêcher, on s'entend bien, enseigner nos enfants dans la famille. Il y a aussi Deutéronome 6. Après ces 40 ans de désert, avant qu'ils pénètrent dans la terre sainte, terre promise, Moïse leur rappelle toutes ces choses. Et dans Deutéronome 6, au verset 6, il leur dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, notamment sur la route de la fête des tabernacles, par exemple, ou d'un autre pèlerinage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, on peut faire des prières, on doit, en quelque sorte, enseigner à nos enfants à prier en se levant, à prier en se couchant, à leur parler des magnifiques promesses de Dieu. Et si vous pouvez continuer, arrivé au verset 20 de Deutéronome 6, là encore, sous l'inspiration de Dieu, Moïse écrit, « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrit ?» J'aime bien le « notre Dieu vous a prescrit », parce que c'est les parents qui ont reçu quand même les prescriptions. Et verset 21, « Tu diras à ton fils, et ça c'est intéressant, nous étions esclaves. » de Pharaon en Égypte, et là, nous sommes sortis, etc. Au verset 23, « Et il nous a fait sortir de là. » Alors certes, j'ai jamais mis les pieds en Égypte, mais nous pouvons aussi parler de notre esclavage du monde, de notre esclavage du péché, et que Dieu nous a sortis de là par son appel. Nous pouvons expliquer cela à nos enfants. N'oublions pas qu'ils sont bénéficiaires de cette bénédiction. La promesse, dit Pierre, dans Actes 2, 37, 38, est pour vous et pour vos enfants. Mais certes, comme ils sont en contact permanent avec nous, il faut bien leur faire comprendre, notamment à travers la fête des pains sans levain, que nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons avancer vers la perfection. Aussi bien eux que nous, leur montrer leurs petites erreurs et accepter qu'ils nous montrent les nôtres. Ça, c'est le plus difficile. Mais enfin, ça, c'est important aussi. Et que ces règlements, c'est pas seulement à l'église, hein. On va à l'église, là, on va à la fête, faudra bien vous tenir, et puis à la maison, non. C'est à la maison et à l'église, dans la société, à l'école, partout, nous devons être des ambassadeurs du Christ. Et vous remarquerez bien, si vous relisez Deutéronome, que Dieu n'a pas dit aux parents de dire aux enfants, oui, il y avait de belles pastèques, de bons melons, des pots de viande, etc. On dormait à côté de ça, il y avait du miel, il y avait des... Non, j'étais esclave en Égypte et Dieu m'a enlevé. Parce que trop souvent, des fois, on peut être atteint par cette nostalgie en tant longtemps de ce qu'on a laissé dans le monde. Il y avait peut-être de bonnes choses, il y avait peut-être de bons amis, des frères de misère, etc., mais dont le mode de vie ne correspond plus au nôtre. Donc, ça demande des sacrifices à ce niveau-là. Donc, en plus de parler, de lire ou d'étudier, de prier, d'enseigner à nos enfants, il y a quelque chose de très important, et c'est le point numéro 5. Il faut se concentrer sur ce qui nous attend et non sur ce que nous avons abandonné. Donc, la transition était toute faite avec cette nostalgie dont je parlais. Et l'exemple le plus frappant, c'est juste après la mer Rouge, etc., donc le petit cheminement dans le désert où Dieu les fait passer par un chemin bien spécial pour qu'ils ne soient pas découragés parce qu'il y avait des brigands, parce qu'il y avait ceci. Ils ne voient pas ça, mais ils arrivent et juste avant d'entrer donc dans le pays, dans le livre de Nombre, verset 13, il y a les 12 espions qui sont envoyés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on connaît aussi l'histoire. Nombre 13, verset 25, on nous dit qu'ils revinrent de l'exploration qui a duré 40 jours. Au verset 27, je paraphrase pour aller vite, ils disent oui, il y a du miel, il y a du lait, ok, mais, haha, il y a des big bonhommes là, hein. Wow, et puis les gars sont armés, maman. Donc, sur 12, il y a que Caleb et Josué, vous connaissez l'histoire, qui ont eu des rapports positifs. Le pire de tout ça, c'est que, après avoir entendu les deux versions, on dira, Nombre 14 au verset 1 nous dit, tout le peuple pleura cette nuit-là, et tous les enfants d'Israël murmurèrent. Verset 3 à verset 4, nommons un chef et retournons en Égypte. Après avoir eu la mer ouverte, hein, avant, quand ils ont pleuré la première fois, c'était bon, ben, il y a la mer, il y a les montagnes, il y a les Égyptiens. Là, ils ont traversé, ils continuent, et là, allez, on veut retourner en Égypte, et le verset 10 nous dit même qu'ils voulaient lapider Moïse, Aaron, Josué, Caleb et tous ceux qui étaient partie prenante de conquérir la ville, et vous connaissez bien sûr le verdict qui va tomber. Vous avez exploré pendant 40 jours, alors vous allez errer pendant 40 ans dans le désert, et tous ceux qui ont plus de 20 ans n'entreront pas, excepté Caleb et Josué. Sur 2 millions de personnes, il y avait certes des enfants, mais ça faisait quand même un paquet d'adultes qui sont tombés dans le désert à cause d'une incrédulité alors qu'ils venaient de vivre des miracles, alors qu'ils avaient quitté la servitude qui les opprimait, comme on l'a vu dans Exode 1 au verset 13 tout à l'heure. Et là, je voudrais, avant de terminer, m'adresser particulièrement à nos jeunes, là. Parce que c'est bien beau, tout ça. Bon, quand vous regardez autour de vous, bon, il a 50, 60, 70. Et ça commence à faire une moyenne d'âge assez élevée. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, au point 4, on doit vous enseigner. Parce que cette promesse est aussi pour vous. Alors, c'est vrai que vous serez confrontés à d'énormes défis dans votre vie. Pour observer le sabbat. Donc, il y a des examens. Ou, il y a des études à faire. Pour observer les jours saints. On aura quand même à cœur de fréquenter quelqu'un et de se marier avec quelqu'un de converti au sein de l'Église, en obéissant au commandement de Dieu. Ça a été dit, le deuxième, alors prenez-en de la graine. Est-ce que vous demandez à papa ou à maman le bulletin d'aujourd'hui parle de cohabitation qui est une mauvaise idée avant le mariage. Mais c'est la mode, tout le monde le fait autour de nous. Donc, il y a tout cela qu'il faut garder. Donc, obéir au commandement de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Il faut être disposé à être différent. Pas seulement non-conformiste, mais il faut comprendre que Dieu veut que nous soyons différents dans ce monde. C'est ce qui est valable pour les parents, est valable pour vous. Il nous a pas demandé de quitter le monde et puis des espèces d'ermites au fin fond du désert. Il nous demande d'être dans le monde, mais il demande à Dieu de nous préserver du mal. Vous êtes dans la salle, il y en a à Saint-Martin qui sont sur la ligne, il y en a en Guyane, il y en a en Haïti aussi. Donc, vous jeunes, ayez le courage de Josué et de Caleb, celui d'Esther, notamment pour les filles, parce qu'on peut dire, ouais, il n'y a que des garçons dans l'affaire. Non, il y a eu Esther, il y a eu Ruth, il y a eu des exemples de femmes dans... On a eu des messages aussi dessus, sur les femmes dans le plan de Dieu. C'est vraiment des choses intéressantes qu'il faut vraiment avoir à cœur. Demandez à Dieu qu'il vous montre le monde tel qu'il le voit, avec tous ses pièges. Parce que papa et maman peuvent parler, mais comme ils sont tout proches de nous, et puis c'est juste l'ancienne génération, bof, non, mais alors la voix va pas descendre du ciel pour vous redresser les bretelles, mais il y a la Bible là aussi. Donc, pensez à tout cela. Tout ce que nous devons faire chaque jour pour tourner le dos à l'Égypte, symboliquement, et résister aux attraits du péché, de notre nature charnelle. Nos sens sont éveillés beaucoup plus tôt parce que tout ce qui se passe à la télé, même aux informations, on voit des choses qui décoiffent. Donc, ayez cela. Et c'est tout à fait légitime que vous puissiez demander, mais tout ça, ça rime à quoi? Pourquoi tout cela? Mes copains font ci, mes copines font cela. Non. Regardez la réponse du Christ à Pierre. Dans Marc 10 au verset 28. Pierre se mit à lui dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et au verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Là encore, il parle du royaume, sa maison, ses frères, ses sœurs, etc. Au verset 30, dit, ne reçoivent au centuple, multiplié par 100, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des pères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Parce que ça fait partie aussi du monde. Mais ce qui est intéressant, est dans le siècle à venir, la vie éternelle. La vie éternelle, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que Dieu en parle. Je sais que ça va être grandiose. Mais je ne peux pas dire, oui, j'ai vécu une expérience de vie éternelle. Donc, on ne peut pas le faire. On ne peut pas vraiment comprendre. Mais on sait que Dieu a de bonnes choses pour nous. Et c'est ça qui est important, avoir la vision d'Abraham, notamment dans Hébreux, et tous les héros de Hébreux, du livre des Hébreux, au chapitre 11. On nous dit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, au verset 10. Des solides fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc il va la dessiner, il va la réaliser. Au verset 13, on nous parle de tous ceux-là qui sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vues et saluées de loin. Ça veut dire qu'ils en étaient persuadés, ils en étaient convaincus que ça viendrait. Il y en a qui ont été sciés, coupés, brûlés, parce qu'il y avait cette promesse. Au verset 15, il nous est dit dans Hébreux 11, ils auraient eu le temps de retourner d'où ils venaient en quelque sorte. Ils auraient eu le temps de retourner en Égypte, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué, ils sont allés de l'avant. N'oublions pas que le Christ nous dit, là où sera notre cœur, là aussi sera notre destin en quelque sorte. Et là, il désire une meilleure patrie, au verset 16, celle qui est céleste, celle qui va descendre du ciel avec Dieu le Père. Dans Apocalypse 21, on nous dit que la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, descend sur cette terre purifiée et que ça va être le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et ce que j'aime dans ce verset 16, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Pour conclure, si nous avons cette vision du royaume, si nous nous appliquons non seulement à éliminer le péché de nos vies, mais aussi de le garder à l'écart, nous grandirons à mesure que Dieu nous prépare et nous façonne en ce qu'il veut. Que Christ disait, pas ma volonté, la tienne, en ce qu'il veut et ce qu'il veut utiliser dans ce royaume, comme un levain qui remplira la terre entière, puis l'univers. Paul nous donne un beau verset, une série de versets, à partir de Philippiens 3 au verset 7. Philippiens 3 au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, autrement du système de l'ancienne alliance, mais par la loi spirituelle des 10 commandements, on s'entend bien. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. au verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, sous-entendu la première. » On s'entend. Au verset 12, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. » Frère, au verset 13, « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Voyez à quel point le royaume était réel pour cet homme qui a persécuté l'Église. Et vraiment, le dernier mot de la fin, parce que je sais qu'il y a des ventes qui crient, y compris le mien. On n'a pas encore le petit pain levé, là. Mais enfin, ça viendra. Donc, avec cette fête des pains sans levain que nous avons célébrée, nous sommes devenus sans levain physiquement et au mieux de nos capacités spirituellement. Parce que cette fête est tant physique que spirituelle. Et comme Dieu l'a dit à Moïse, il nous dit maintenant, ne restez pas immobiles. Pourquoi parlez-vous? Pourquoi criez-vous? Allez de l'avant. Allez de l'avant sans relâche, jusqu'à la croissance, l'expansion et en fin de compte l'extension à tout l'univers de l'impressionnant royaume de Dieu.